Chapitre 12. Avez-vous besoin d'argent? Voulez-vous un habillement complet à la dernière mode, une calèche à 8 ressorts ou une paire de bottines? Vous faudrait-il un cachemire de l'Inde, un service de porcelaine ou un bon tableau pas cher? Est-ce un mobilier que vous souhaitez, de noyer ou de palissandre, ou des diamants, ou des draps ou des dentelles, ou une maison de campagne, ou votre provision de bois pour l'hiver? Adressez-vous à Madame Charmant, 136 rue Notre-Dame de Lorette, au premier au-dessus de l'entresol, car elle tient tout cela et même d'autres articles encore qu'il est défendu de considérer comme marchandises. Si, homme, vous avez quelque garantie à lui présenter, et ne fût-ce qu'un traitement saisissable, si, femme, vous êtes jeune, jolie et point farouche, Madame Charmant se fera un plaisir de vous obliger à raison de 200% d'intérêt. À ce taux, elle a beaucoup de pratique et n'a pourtant pas encore fait fortune. C'est qu'elle est forcément très aventureuse, qu'il y a d'énormes pertes s'il y a de prodigieux profits, et que souvent, ce qui est venu par la flûte s'en va par le tambour. Puis, ainsi qu'elle se plaît à le dire, elle est trop honnête. Et c'est vrai, au moins, qu'elle est honnête. Elle vendrait sa dernière chemise brodée plutôt que de laisser protester sa signature. Personne, d'ailleurs, moins que Madame Charmant, ne ressemble à cette horrible grosse femme à voix rauque, à gestes cyniques, chargée de bagues et de chaînes d'or, qui est le type de la marchande à la toilette. Elle est blonde, mince, douce, ne manque pas d'une certaine distinction, et porte invariablement, été comme hiver, une robe de soie noire. Elle possède un mari, assure-t-on, mais personne jamais ne l'a vu, ce qui n'empêche pas que sa conduite est, au dire de son portier, au-dessus du soupçon. Si honorable cependant que soit la profession de Madame Charmant, elle a eu plus d'une fois affaire à M. Lecoq. Elle a besoin de lui et le craint comme le feu. Aussi accueillit-elle l'agent de la sûreté et son compagnon, qu'elle prit pour un collègue, bien entendu, un peu comme un surnuméraire accueillerait son directeur venant le visiter. Elle les attendait. À leur coup de sonnette, elle accourut au-devant d'eux, jusque dans son antichambre, gracieuse, respectueuse, le sourire aux lèvres. Elle disputa à sa bonne l'honneur de les faire passer dans son salon, elle leur avança les meilleurs fauteuils et même leur offrit quelques rafraîchissements. « Je vois, chère madame, commença M. Lecoq, que vous avez reçu mon petit mot. « Oui, monsieur, ce matin de très bonne heure, j'étais même encore au lit. »« Très bien. Et avez-vous été assez complaisante pour vous inquiéter de ma commission ?»« Ciel, monsieur Lecoq, pouvez-vous bien me demander cela quand vous savez que j'aimerais à passer dans le feu pour vous ?»« Je m'en suis occupé à l'instant même. Je me suis levé tout exprès. » « Alors, vous avez découvert l'adresse de Pélagie Taponnet, dite Jenny Fancy. » Madame Charmant crut devoir dessiner la plus gracieuse de ses révérences. « Oui, monsieur, oui, répondit-elle, soyez satisfait. Oh, si j'étais femme à me faire valoir hors de propos, je pourrais vous dire que j'ai eu un mal infini à me procurer cette adresse, que j'ai couru tout Paris, que j'ai dépensé 10 francs de voiture, mais je mentirais. » « au fait, insista M. Lecoq. La vérité est que j'ai eu le plaisir de voir Miss Jenny Fancy avant-hier. Oh, plaisantez, pas le moins du monde. Et même à ce propos, laissez-moi vous dire que c'est une bien brave et bien honnête personne. Vraiment ? Oh, c'est comme cela. Imaginez-vous qu'elle me devait 480 francs depuis plus de 2 ans. « Naturellement, comme bien vous pensez, j'avais mis un P sur cette créance et je n'y songeais plus guère. Mais voilà qu'avant-hier, ma Fancy m'arrive, toute pimpante, qui me dit J'ai fait un héritage, Madame Charmant, j'ai de l'argent et je vous en rapporte. » Et elle ne plaisantait pas. Elle avait plein son porte-monnaie de billets de banque et j'ai été payé intégralement. Et comme l'agent de la sûreté se taisait, elle ajouta avec une conviction profonde et attendrie : « Bonne fille, va, digne créature !» À cette déclaration de la marchande, M. Lecoq et le père Plantat avaient échangé un coup d'œil. La même idée leur venait à tous deux en même temps. Cet héritage annoncé par Miss Fancy, tous ces billets de banque, ne pouvait être que le prix d'un grand service rendu par elle à Trémorel. Cependant, l'agent de la sûreté voulut avoir des renseignements plus positifs. Dans quelle position était cette fille avant cette succession ? Demanda-t-il. « Oh, monsieur, dans une position affreuse, allez. Depuis que son comte l'a quittée et qu'elle a mangé son Saint-Frusquin dans les modes, elle a toujours été en dégringolant. Une personne que j'ai vue si comme il faut autrefois. Après cela, vous savez, quand une femme a des peines de cœur, tout ce qu'elle possédait, elle l'a mis au clou, vendu loc à loc. Dans ces derniers temps, elle fréquentait la plus mauvaise société. Elle buvait de l'absinthe, m'a-t-on dit, et même elle n'avait plus rien à se mettre sur le dos. Quand elle recevait de l'argent de son compte, car il lui en envoyait encore, elle le dépensait en partie avec des femmes de rien du tout, au lieu de s'acheter de la toilette. Et où demeure-t-elle ? Oh, tout près d'ici, dans une maison meublée de la rue Vintimille. Cela étant, fit sévèrement M. Lecoq, je m'étonne qu'elle ne soit pas ici. Ce n'est pas ma faute, allez, cher monsieur. Si je sais où est le nid, j'ignore où est l'oiseau. Elle était dénichée ce matin lorsque ma première demoiselle est allée chez elle. Diable, mais alors, c'est fort contrariant. Il faudrait la faire chercher bien vite. Soyez sans inquiétude. Fancy doit rentrer avant 4 heures, et ma première l'attend chez son concierge avec ordre de la mener dès qu'elle rentrera, sans même la laisser monter à sa chambre. Attendons-la donc. Il y avait un quart d'heure environ que M. Lecoq et le père Plantat attendaient, lorsque tout à coup Mme Charmant, qui a l'oreille très fine, se dressa. « Je reconnais, dit-elle, le pas de ma première demoiselle dans l'escalier. » Et écoutez, dit M. Lecoq, puisqu'il en est ainsi, arrangez-vous de façon à ce que Fancy croie que c'est vous qui l'avez envoyé chercher. Mon ami et moi aurons l'air de nous trouver ici par le plus grand des hasards. » Madame Charmant répondit par un geste d'assentiment. « Compris, fit-elle. » Déjà, elle faisait un pas vers la porte. L'agent de la sûreté la retint par le bras. « Encore un mot, ajouta-t-il. Dès que vous verrez la conversation engagée entre cette fille et moi, ayez donc l'obligeance d'aller surveiller vos ouvrières dans votre atelier. Ce que j'ai à dire ne vous intéressant pas du tout. » « C'est entendu, monsieur. Mais vous savez, pas de tricherie. Je connais, pour l'avoir utilisé, le petit cabinet de votre chambre à coucher, d'où on ne perd pas un traître mot de ce qui se dit ici. » La première demoiselle ouvrit la porte du salon. Il y eut un grand froufrou de robe de soie glissant le long de l'huisserie, et Miss Jenny Fancy parut dans sa gloire. Hélas, ce n'était plus cette fraîche et jolie Fancy qui avait aimé Hector, cette provocante parisienne aux grands yeux, tour à tour langoureuse ou enflammée, au fin minois, à la mine éveillée. Une seule année l'avait flétrie comme un été trop chaud fane les roses, et avait sans doute détruit sa fragile beauté, beauté de Paris, beauté du diable. Elle n'avait pas 20 ans, et il fallait l'œil d'un connaisseur pour reconnaître qu'elle avait été charmante autrefois, quand elle était jeune. Car elle était vieille comme le vice, ses traits fatigués et ses joues flasques disaient les désordres de sa vie. Ses yeux cerclés de bistre avaient perdu leurs grands cils et déjà rougissaient et clignotaient. Sa bouche avait une lamentable expression d'hébétude et l'absinthe et les refrains obscènes avaient brisé les notes si claires de sa voix. Elle était en grande toilette avec une robe neuve, éclatante et tachée, une immense cloche de dentelle et un chapeau invraisemblable. Pourtant, elle avait l'air misérable. Enfin, elle était outrageusement maquillée, toute barbouillée de rouge, de blanc et de bleu, de carmin et de crème de perles. Elle paraissait fort en colère. « Voilà une idée !» s'écria-t-elle dès le seuil, sans songer à saluer personne. « Cela a-t-il sens commun de m'envoyer chercher ainsi, presque de force ?» par une demoiselle qui est de la dernière insolence. » Mais Madame Charmant s'était élancée vers son ancienne cliente, l'avait embrassée bon gré mal gré, et la pressait sur son cœur. « Comment, chère petite, disait-elle, vous vous fâchez, lorsque je comptais que vous alliez être ravie et me remercier bien gentiment ? Moi, pourquoi ? Parce que, belle mignonne, j'ai voulu vous réserver une bonne surprise. Oh, je ne suis pas ingrate, moi. Vous êtes venu hier régler votre petit compte. Je veux aujourd'hui même vous en récompenser. Allons vite, souriez. Vous allez profiter d'une occasion magnifique. J'ai en ce moment du velours en grande largeur. » C'était bien la peine de me déranger. Tout soit, ma chère. À 30 francs le mètre, hein ? Est-ce assez inouï ? Assez invraisemblable ? Assez... Je me soucie bien de votre occasion. Du velours au mois de juillet, vous moquez-vous de moi ? Laissez-moi vous le montrer. Jamais ! On m'attend pour aller dîner à Asnières. Elle allait se retirer en dépit des efforts très sincères de Madame Charmant, qui se proposait peut-être de faire d'une pierre deux coups. Monsieur Lecoq jugea qu'il était temps d'intervenir. Mais je ne me trompe pas, s'écria-t-il avec des mines de vieux roquentin émoustillé. C'est bien Miss Jenny Fancy que j'ai le bonheur de revoir. Elle le toisa d'un air moitié fâché, moitié surpris en disant: Oui, c'est moi, et après? Quoi? « Vous êtes oublieuse à ce point? Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, pas du tout. Mais j'étais cependant un de vos admirateurs, ma belle enfant, et j'ai eu le plaisir de déjeuner chez vous quand vous demeuriez près de la Madeleine. C'était du temps du comte. » Il retira ses lunettes comme pour en essuyer les verres, mais en réalité, pour lancer un regard furibond à Madame Charmant, qui, n'osant résister, battit discrètement en retraite. « J'étais assez bien avec Trémorel autrefois, » reprit Monsieur Lecoq. « Et à ce propos, y a-t-il longtemps que vous n'avez eu de ces nouvelles ?»« Bon, je l'ai vu il y a 8 jours. »« Tiens, tiens, tiens. Alors vous connaissez son horrible affaire ?» « Non, qu'y a-t-il donc ?»« Vrai, vous ne savez pas. Vous lisez donc pas les journaux. Mais c'est une abominable histoire, ma chère enfant. Et on ne parle que de cela dans Paris depuis 48 heures. Dites vite. Vous savez qu'après son plongeon, il a épousé la veuve d'un de ses amis. On le croyait fort heureux en ménage. Pas du tout. Il a assassiné sa femme à coups de couteau. » Miss Fancy pâlit sous sa couche épaisse de peinture. « Est-ce possible ? » balbutia-t-elle. Elle disait « Est-ce possible ?» Mais si elle était très émue, à coup sûr, Elle n'était pas extrêmement surprise. Monsieur Lecoq le remarqua fort bien. Ben, c'est si possible, répondit-il, qu'à cette heure il est en prison, qu'il passera en cour d'assises et que très certainement il sera condamné. Le père Plantat observait curieusement Jenny. Il s'attendait à une explosion de désespoir, à des cris, à des pleurs, à une légère attaque de nerfs, pour le moins. Erreur. Fancy en était venue à détester Trémorel. Parfois, elle, si impatiente de mépris jadis, elle sentait le poids de ses hontes et cet Hector que, bien justement, elle accusait de son ignominie présente. Elle le haïssait bassement, comme haïssent les filles, lui souriant quand elle le voyait, tirant de lui le plus d'argent possible et lui souhaitant toutes sortes de malheurs. Loin le fondre en larmes, Jenny Fancy eut un éclat de rire stupide. « C'est bien fait pour Trémorel, dit-elle. Pourquoi m'a-t-il quitté ? C'est bien fait pour elle aussi. Comment pour elle aussi ? Bien sûr. Pourquoi trompait-elle son mari, un charmant garçon ? C'est elle qui m'a enlevé Hector, une femme mariée et riche. Hector n'est qu'un misérable, je l'ai toujours dit. Franchement, c'était aussi mon avis. Quand un homme, voyez-vous, se conduit comme Trémorel, s'est conduit avec vous, il est jugé. N'est-ce pas ? Parbleu, oh, si ne suis-je pas surpris de sa conduite, car sachez-le, avoir assassiné sa femme est le moindre de ses crimes. Ne voilà-t-il pas qu'il essaie de rejeter son meurtre sur un autre ? Ne m'étonne pas. Il accuse un pauvre diable innocent, dit-on, comme vous et moi, et qui cependant sera peut-être condamné à mort, faute de pouvoir dire où il a passé la soirée et la nuit de mercredi à jeudi. Monsieur Lecoq avait prononcé cette phrase d'un ton léger, mais avec une lenteur calculée, afin de bien juger de l'impression qu'elle produirait sur Fancy. L'effet fut si terrible qu'elle chancela. « Savez-vous quel est cet homme ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Les journaux disent que c'est un pauvre garçon qui était jardinier chez lui. Ah, un petit, n'est-ce pas ? Maigre, très brun, avec des cheveux noirs et plats. Oui, précisément. Oh, et qui s'appelle ? Attendez donc, qui s'appelle ? Guespin. Ah, ça vous le connaissez donc ? Miss Fancy hésitait. Elle était fort tremblante. On voyait qu'elle regrettait de s'être tant avancée. Dit-elle enfin, je vois pas pourquoi. Je dirai pas ce que je sais. Je suis une honnête fille, moi. Si Trémorel est un coquin, je veux pas qu'on coupe le cou d'un pauvre diable qui est innocent. Ah, vous savez donc quelque chose ? Dites donc que je sais tout. Et c'est bien simple, allez. Il y a de cela une huitaine de jours, mon Hector, qui soi-disant voulait plus me revoir, m'écrit pour me donner un rendez-vous à Melun. J'y vais, je le trouve, et nous déjeunons ensemble. Alors voilà qui me raconte, qui est bien ennuyé, que sa cuisinière se marie, mais qu'un de ses domestiques est si amoureux d'elle qu'il est capable d'aller faire du scandale à la noce, de troubler le bal et même de tenter un mauvais coup. Ah, il vous a parlé de la noce. Attendez donc. Mon Hector semblait très embarrassé, ne sachant comment éviter le bruit qu'il prévoyait. C'est alors que je lui conseillais d'éloigner ce domestique pour ce jour-là. Il réfléchit un moment et il m'a dit que j'avais une bonne idée. J'ai trouvé un moyen, ajouta-t-il. Le soir de la noce, je ne piéverai ce drôle de rien, mais je le chargerai d'une commission pour toi, en lui laissant supposer qu'il s'agit d'une affaire que je veux cacher à ma femme. Toi, tu te déguiseras en femme de chambre, et tu iras l'attendre dans un café de la place du Châtelet entre 9h30 et 10h30 du soir. Pour qu'il te reconnaisse, tu te placeras à la table la plus proche de l'entrée à droite et tu auras à côté de toi un gros bouquet. Il te remettra un paquet et alors tu l'inviteras à prendre quelque chose. Tu le griseras s'il se peut et tu le promèneras à travers Paris jusqu'au lendemain. Miss Fancy s'exprimait difficilement, hésitant, triant ses mots, cherchant, on le voyait, à se rappeler les termes mêmes de Trémorel. « Et vous, interrompit Monsieur Lecoq, vous, une femme spirituelle, vous avez cru à cette histoire de domestique jaloux ?»« Pas précisément, mais je m'imaginais qu'il y avait quelques maîtresses sous jeu. » Je n'étais pas fâché de l'aider à tromper la femme que je déteste et qui m'a fait du tort. Ainsi, vous avez obéi. De point en point, et tout est arrivé comme Hector l'avait prévu. À 10 heures précises, mon domestique arrive, il me prend pour une bonne et me remet le paquet. Naturellement, je lui offre un boc qu'il accepte et m'en propose un autre que j'accepte également. Il est très comme il faut, ce jardinier, aimable et poli. Je vous assure que j'ai passé une excellente soirée avec lui. Il sait un tas d'histoires, toutes plus drôles les unes que les autres. Passons, passons. Qu'avez-vous fait ensuite? Après la bière, nous avons bu les petits verres. Il avait ses poches pleines d'argent, ce jardinier. Et après les petits verres, encore de la bière, puis du punch, puis du vin chaud. À 11 heures, il était déjà très gris et parlait de me mener au Batignolles danser un quadrille. Moi, je refuse et je lui dis qu'étant galant, il ne peut se dispenser de venir me reconduire chez ma maîtresse qui demeure au haut les Champs-Élysées. Nous voilà donc sortis du café et allant de marchand de vin en marchand de vin tout le long de la rue de Rivoli. Bref, sur les 2 heures du matin, ce pauvre diable était tellement ivre qu'il est tombé comme une masse sur un banc près de l'Arc de Triomphe, qui s'y est endormi et que je l'y ai laissé. Et vous, qu'êtes-vous devenu ? Moi ? Mais je suis rentré chez moi. Et qu'est devenu le paquet? Ma foi, je devais le jeter à la Seine, mais je l'ai oublié. Vous comprenez, j'avais bu presque autant que le jardinier, surtout au commencement, si bien que je l'ai rapporté chez moi, où il est encore. Mais vous l'avez ouvert. Comme bien vous pensez. Que contient-il? Un marteau? 2 autres outils et encore un grand couteau. L'innocence de Gaspin était désormais évidente. Toutes les prévisions de l'agent de la sûreté se réalisaient. « Allons, dit le père Planta, voilà notre client tiré d'affaire. Reste à savoir. » Mais monsieur Lecoq l'interrompit. Il savait désormais tout ce qu'il désirait. Jenny n'avait plus rien à lui apprendre. Il changea le ton subitement, quittant la voix de miel du galantin pour la voix sèche et brutale de l'homme de la préfecture. « Ma belle enfant, dit-il à Miss Fancy, vous venez en effet de sauver un innocent, mais ce que vous venez de me conter, il faut aller le répéter au juge d'instruction de Corbeil. Seulement, comme vous pourriez vous égarer en route, je vais vous donner un guide. » Il alla à la fenêtre où l'ouvrit et apercevant sur le trottoir en face l'agent de M. Domini, se souciant peu de compromettre Mme Charmant, il cria à pleine voix « Goulard, hé, Goulard, monte un peu ici !» Revenant alors à Miss Fancy, si troublée, si épouvantée, qu'elle n'osait ni questionner ni se mettre en colère, « Dites-moi, lui demanda-t-il, combien Trémorel vous a payé le service que vous lui avez rendu ? 10 000 francs, monsieur, mais ils sont bien, moi, je vous jure. Il me les promettait depuis longtemps pour me remettre à flot. Il me les devait. C'est bon, non, c'est bon, on ne vous les enlèvera pas. Et lui montrant Goulard qui entrait. Vous allez, lui dit-il, conduire ce monsieur chez vous en sortant d'ici. Vous prendrez le paquet que vous a remis Gaspin et vous partirez de suite pour Corbeil. Surtout, ajouta-t-il d'une voix terrible, pas d'enfantillage, ou gare à moi. Au bruit qui se faisait dans le salon, Madame Charmant arriva juste à temps pour voir sortir Fancy escortée de Goulard. « Qu'y a-t-il, grand Dieu ? » demanda-t-elle, tout éplorée, à Monsieur Lecoq. « Rien, chère madame, rien qui vous regarde, du moins. Et sur ce au revoir et merci, nous sommes fort pressés. » Quand Monsieur Lecoq est pressé, il marche vite. Il courait presque en descendant la rue de Notre-Dame-de-Lorette, qui est la rue de Paris qu'on pave le plus souvent, si bien que le père Plantat avait toutes les peines du monde à le suivre. Tout en hâtant le pas, préoccupé des mesures qu'il avait à prendre pour assurer le succès de ses desseins, il poursuivait un monologue dont le juge de paix de ci de là saisissait quelques bribes. « Tout va bien, murmurait-il, et nous réussirons. Il est rare qu'une campagne commence si bien et se termine pas heureusement. Si Job est chez le marchand de vin, si un de mes hommes a réussi dans sa tournée, le crime de Valfeuilly est réglé, toisé, arrangé dans la soirée, et dans 8 jours, personne n'en parlera plus. » Arrivé au bas de la rue, en face de l'église, l'agent de la sûreté s'arrêta court. J'ai à vous demander pardon, monsieur, dit-il au juge de paix d'Orcival, de vous traîner ainsi à ma suite et de vous condamner à faire mon métier, mais outre que votre assistance pouvait m'être fort utile chez madame Charmant, elle me devient absolument indispensable maintenant que nous allons nous occuper sérieusement de Trémorel. Aussitôt, ils traversèrent le carrefour et entrèrent chez le marchand de vin établi au coin de la rue des Martyrs. Debout, derrière son comptoir d'étain, occupé à verser dans des litres le contenu d'un énorme broc, le patron ne sembla pas médiocrement étonné de voir s'aventurer dans sa boutique deux hommes qui paraissaient appartenir à la classe élevée de la société. Mais M. Lecoq, comme Alcibiade, est partout chez lui et parle la langue technique de tous les milieux où il pénètre. N'avez-vous pas chez vous, demanda-t-il au marchand de vin, une société de 8 ou 10 hommes qui en attendent d'autres ? Oui, monsieur, ces messieurs sont arrivés il y a 1 heure environ. Ils sont dans le grand cabinet du fond, n'est-ce pas ? Bon, précisément, monsieur, répondit le débitant, devenu subitement obséquieux. Il ne savait pas précisément quel personnage l'interrogeait, mais il avait flairé quelque agent supérieur de la préfecture de police. Dès lors, il ne fut point surpris de voir que ce monsieur si distingué connaissait comme lui-même les êtres de sa maison et ouvrait sans hésitation la porte du cabinet indiqué. Dans ce compartiment du fond, séparé des autres par une simple cloison de verre dépoli, 10 hommes à tournures variées buvaient en maniant des cartes. À l'entrée de M. Lecoq et du père Plantard, ils se levèrent respectueusement, et ceux qui avaient conservé leur coiffure, chapeau ou casquette, la retirèrent. « Bien, Monsieur Job, dit l'agent de la sûreté, à celui qui paraissait le chef de la troupe, « Vous êtes exact, je suis content. Vos 6 hommes me suffiront amplement, puisque je vois là mes 3 commissionnaires de ce matin. » Monsieur Job s'inclina, heureux d'avoir satisfait un maître qui n'est pas prodigue de témoignages d'approbation. « Vous allez m'attendre ici encore 1 minute, reprit Monsieur Lecoq. Mes instructions dépendront du rapport que je vais entendre. » s'adressant alors à ses envoyés. « Lequel de vous, demanda-t-il, a réussi ?»« Moi, monsieur, répondit un grand garçon à face blême, à petite moustache chétif, un vrai parisien. « Encore toi, Palot, oh, décidément, mon garçon, tu as de la chance. Suis-moi dans le cabinet à côté, mais auparavant, dis au patron de nous donner une bouteille et de veiller à ce que personne ne vienne nous déranger. » Bientôt, les ordres furent exécutés, et après avoir fait asseoir le père Planta, M. Lecoq poussa lui-même le léger verrou du cabinet. « Parle maintenant, dit-il à son homme, et sois bref. » Donc, monsieur, j'avais en vain montré ma photographie à une douzaine de négociants, lorsque rue des Saint-Pères, un des bons tapissiers du faubourg Saint-Germain, nommé Rech, l'a reconnu. Rapporte-moi ce qu'il t'a dit, mot pour mot, s'il se peut. Ce portrait, m'a-t-il dit, est celui d'un de mes clients. Ce client s'est présenté chez moi il y a un mois environ, pour acheter un mobilier complet, salon, salle à manger, chambre à coucher et le reste, destiné à un petit hôtel qu'il venait de louer. Il n'a rien marchandé, ne mettant au marché qu'une condition, c'est que tout serait prêt, livré en place, les rideaux et les tapis posés à 3 semaines de là, c'est-à-dire il y a eu lundi dernier 8 jours. À combien montaient les acquisitions ? À 18 000 francs qui ont été payés moitié d'avance, moitié le jour de la livraison. Qui a remis les fonds la seconde fois ? Un domestique. Quel nom a donné ce monsieur au tapissier ? Il a dit s'appeler monsieur James Wilson, mais monsieur Rech m'a dit qu'il avait pas l'air d'un Anglais. Où demeure-t-il ? Les meubles ont été portés dans un petit hôtel rue Saint-Lazare, numéro près de la gare du Havre. La figure de M. Lecoq, assez soucieuse jusqu'alors, exprima la joie la plus vive. Il éprouvait l'orgueil si légitime et si naturel du capitaine qui voit réussir les combinaisons que doivent prendre l'ennemi. Il se permit de taper familièrement sur l'épaule du vieux juge de paix en prononçant ce seul mot « Pincé !» Mais le palot secoua la tête. « Oh, c'est pas sûr, dit-il. Pourquoi ? Ben, vous le pensez bien, monsieur. L'adresse m'étant connue et ayant du temps devant moi, je suis allé reconnaître la place, c'est-à-dire le petit hôtel. Et alors ? Ben, le locataire s'appelle bien Wilson. » Mais ce n'est pas l'homme au portrait, j'en suis sûr. » Le juge de paix eut un geste de désappointement, mais M. Lecoq ne se décourageait pas si vite. « Comment as-tu des détails ? » demanda-t-il à son agent. « Ben, je fais parler un domestique. »« Malheureux ! » s'écria le père Planta. « Vous avez peut-être réveillé les soupçons. »« Pour cela, non, répondit M. Lecoq, j'en répondrai. Palot est mon élève. » « Explique-toi, mon garçon. Pour l'heure, monsieur, l'hôtel reconnu, habitation cossue, ma foi, je me suis dit, voici bien la cage, sachons si l'oiseau est dedans. Mais comment faire ? Par bonheur et par le plus grand des hasards, j'avais sur moi un louis. Sans hésiter, je le glisse dans le canal qui conduit au ruisseau de la rue, les eaux ménagères de l'hôtel. » Puis tu sonnes, comme de juste. Le portier, car il y a un portier, vient m'ouvrir, et moi, de mon air le plus vexé, je lui raconte qu'en tirant mon mouchoir de poche, j'ai laissé tomber 20 francs, et je le prie de me prêter un instrument quelconque pour essayer de les rattraper. Il me prête un morceau de fer, il en prend un de son côté, et en moins de rien, nous retrouvons la pièce. Aussitôt, je me mets à sauter comme si j'étais le plus heureux des hommes, et je le prie de se laisser offrir un verre de n'importe quoi, en manière de remerciement. Pas mal ! Oh, monsieur Lecoq, ce truc est de vous ! mais vous allez le voir le reste qui est de moi. Mon portier accepte et nous voilà les meilleurs amis du monde, buvant un verre de bitter dans un débit qui est en face de l'hôtel. Nous causions gaiement quand tout à coup, je me baisse comme si je venais d'apercevoir à terre quelque chose de surprenant et je ramasse quoi ? La photographie que j'avais laissée tomber et que j'avais un peu abîmée avec mon pied. Tiens, dis-je, un portrait. Mon nouvel ami le prend, le regarde et n'a pas l'air de le reconnaître. Alors, pour être plus sûr, j'insiste et je dis « Oh, il est très bien, ce monsieur, votre maître, doit être dans ce genre, car tous les hommes bien se ressemblent. » Mais il répond que non, que l'homme du portrait a toute sa barbe, tandis que son maître est rasé comme un abbé. D'ailleurs, ajoute-t-il, mon maître est américain, il nous donne les ordres en français, c'est vrai, mais madame et lui causent toujours en anglais. » À mesure que parlait le palot, l'œil de monsieur Lecoq redevenait brillant. « Trémorel parle anglais, n'est-ce pas ? » demanda-t-il au père Plantin. « Ou très passablement, et Laurence aussi. Cela étant, notre piste est bien la bonne, car nous savons que Trémorel a coupé sa barbe le soir du crime. Nous pouvons marcher. » Cependant, le palot, qui s'attendait à des éloges, paraissait quelque peu décontenancé. « Mon garçon, lui dit l'agent de la sûreté, je trouve ton enquête très jolie, une bonne gratification te le prouvera. Ignorant ce que nous savons, tes déductions étaient justes. Mais revenons à l'hôtel, tu dois avoir le plan du rez-de-chaussée. Oh, certes, monsieur, et aussi du premier. » Le portier, qui n'était pas muet, m'a donné quantité de renseignements sur ses maîtres qu'il ne sert pourtant que depuis 2 jours. La dame est affreusement triste. Elle ne fait que pleurer. Nous le savons. Alors, le plan. En bas, nous avons une large et haute voûte pavée pour le passage des voitures. De l'autre côté de la voûte est une assez grande cour, l'écurie et la remise sont au fond de la cour. À gauche de la voûte est le logement du portier. À droite est une porte vitrée donnant sur un escalier de 6 marches qui conduit à un vestibule lequel ouvre le salon, la salle à manger et 10 autres petites pièces. Au premier se trouvent les chambres de monsieur et madame, un cabinet de travail, un... Ah, c'est, interrompit monsieur Lecoq, mon siège est fait. Et se levant brusquement, il ouvrit la porte de son compartiment et passa, suivi de messieurs Plantin et du Palot, dans le grand cabinet. Comme la première fois, tous les agents se levèrent. Monsieur Job, dit alors l'agent de la sûreté à son lieutenant, écoutez bien l'ordre. Vous allez, dès que je serai parti, régler ce que vous devez ici. Puis, comme il faut que je vous aie sous la main, vous irez tous vous installer chez le premier marchand de vin qu'on trouve à droite en remontant la rue d'Amsterdam. Dîner, vous avez le temps, mais sobrement, vous m'entendez. Il tira de son porte-monnaie 2 louis, qu'il plaça sur la table en disant « Voilà pour le dîner. » Puis il sortit, après avoir recommandé à Palot de le suivre de très près. Avant tout, M. Lecoq avait hâte de reconnaître par lui-même l'hôtel habité par Trémorel. D'un coup d'œil, il jugea que les dispositions intérieures étaient bien telles que le disait Palot. « C'est bien cela, dit-il au père Plantin. Nous avons la position pour nous. Nos chances sont à cette heure de 90/100. »« Qu'allez-vous faire ? » demanda le vieux juge de paix, que l'émotion gagnait à mesure qu'approchait le moment décisif. « Oh, pour le moment, rien. Je ne veux agir que la nuit venue. Aussi, ajouta-t-il presque gaiement, « puisque nous avons 2 heures à nous, faisons comme nos hommes. Je sais justement dans ce quartier, à 2 pas, un restaurant où l'on dîne fort bien. Allons dîner. » Et sans attendre la réponse du père Plantard, il l'entraîna vers le restaurant du passage du Havre. Mais au moment de mettre la main sur le bouton de la porte, il s'arrêta et fit un signe. Palot aussitôt s'approcha. « Je te donne 2 heures, lui dit-il, pour te faire une tête que ne reconnaisse pas le portier de tantôt et pour manger une bouchée. Tu es garçon tapissier. Allez, file vite, je t'attends dans ce restaurant. » Ainsi que l'avait affirmé M. Lecoq, on dîne très bien au restaurant du Havre. Le malheur est que le père Plantat ne put en juger. Plus que le matin encore, il avait le cœur serré, et avaler une seule bouchée lui eût été impossible. Si seulement il eût connu quelque chose des projets de son guide. Mais l'agent de la sûreté était resté impénétrable, se contentant de répondre à toutes les questions. « Mais laissez-moi faire, fiez-vous à moi !» Certes, la confiance de M. Plantat était grande, mais plus il réfléchissait, plus cette tentative de soustraire Trémorel à la cour d'assises lui paraissait périlleuse, hérissée d'insurmontables difficultés, presque insensées. Les doutes les plus poignants assiégeaient son esprit et le torturaient. C'était sa vie, en somme, qui se jouait, car il s'était juré qu'il ne survivrait pas à la perte de Laurence, réduite à confesser en plein tribunal, et son déshonneur et son amour pour Hector. Monsieur Lecoq essaya bien de presser son convive. Il voulait le décider à prendre au moins un potage et un verre de vieux Bordeaux. Bientôt, il reconnut l'inutilité de ses efforts et prit le parti de dîner comme s'il eût été seul. Il était fort soucieux, mais jamais l'incertitude du résultat poursuivi ne lui a fait perdre une bouchée. Il mangea longuement et bien, et vida lestement sa bouteille de Léoville. Cependant, la nuit était venue, et déjà les garçons commençaient à allumer les lustres. Peu à peu, la salle s'était vidée, et le père Plantat et M. Lecoq se trouvaient presque seuls. « Ne serait-il pas enfin temps d'agir ?» demanda timidement le vieux juge de paix. L'agent de la sûreté tira sa montre. « Oh, nous avons encore près d'une heure à nous, » répondit-il. « Pourtant, je vais tout préparer. » Il appela le garçon et demanda en même temps qu'une tasse de café ce qu'il faut pour écrire. « Voyez-vous, monsieur, » poursuivait-il, pendant qu'on s'empressait de le servir, « l'important pour nous est d'arriver jusqu'à Mademoiselle Laurence à l'insu de Trémorel. Il nous faut 10 minutes d'entretien avec elle et chez elle. Telle est l'indispensable condition de notre succès. » Le vieux juge de paix s'attendait probablement à quelques coups de théâtre immédiats et décisifs, car cette déclaration de M. Lecoq sembla le consterner. « S'il en est ainsi, fit-il avec un geste désolé, autant renoncer à notre projet. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, Trémorel ne doit pas laisser Laurence seule 1 minute. Aussi ai-je songé à la tirer dehors. Et c'est vous, monsieur si perspicace d'ordinaire, qui pouvait supposer qu'il s'aventurera dans les rues. Vous ne vous rendez pas compte de sa situation en ce moment. Songez qu'il doit être en proie à des terreurs sans bornes. Nous savons, nous, qu'on ne retrouvera pas la dénonciation de Sauvresy, mais il l'ignore, lui. Il se dit que peut-être ce manuscrit a été retrouvé, qu'on a eu des soupçons, et que déjà sans doute il est recherché, poursuivi, traqué par la police. » Monsieur Lecoq eut un sourire triomphant. « Et je me suis dit tout cela, » répondit-il, « et bien d'autres choses encore. Ah, trouver un moyen de débusquer des Pommerelles n'était pas aisé. Je l'ai cherché longtemps, mais enfin je l'ai trouvé, juste comme nous entrions ici. Dans une heure, le comte de Trémorel sera au faubourg Saint-Germain. Il va m'en coûter un faux, c'est vrai, mais vous m'accorderez bien des circonstances atténuantes. D'ailleurs, qui veut la fin veut les moyens. Il prit la plume et, sans quitter son cigare, rapidement il écrivit. Monsieur Wilson, 4 des billets de 1000 francs que vous m'avez donnés en paiement sont faux. Je viens de le reconnaître en les remettant à mon banquier. Si, avant 10 heures, vous n'êtes pas chez moi pour vous expliquer à ce sujet, j'aurai le regret de faire parvenir ce soir même une plainte à monsieur le procureur impérial. Signé Resch. Tenez, monsieur, fit monsieur Lecoq en passant sa lettre au père Plantat. Comprenez-vous ? D'un coup d'œil, le vieux juge de paix eut lu, et il ne put retenir une exclamation de joie qui fit retourner tous les garçons. « Oui, dit-il, oui, en effet, il sera pris au reçu de cette lettre, d'une épouvante qui triomphera de toutes ses erreurs. Il se dira que parmi les billets remis en paiement, il a pu s'en glisser de faux sans qu'il s'en soit aperçu. Il se dira qu'une plainte déposée au parquet provoquera une enquête, qu'il lui faudra prouver qu'il est bien M. Wilson et qu'alors il est perdu. Alors ainsi vous croyez qu'il sortira ? Ben, j'en suis sûr, à moins qu'il ne soit devenu fou. Nous réussirons donc, je vous le répète, car je viens de surmonter le seul obstacle sérieux. » Il s'interrompit brusquement, la porte du restaurant s'était entr'ouverte, et par l'entrebâillement, un homme avait passé la tête et l'avait retiré aussitôt. « Voici mon homme, » dit M. Lecoq, en appelant le garçon pour solder l'addition. « Sortons, il doit nous attendre dans le passage. » Dans la galerie, en effet, un jeune homme, vêtu comme les ouvriers tapissiers, attendait, tout en paraissant flâner le long des boutiques. Il avait de longs cheveux bruns et les moustaches et les sourcils du plus beau noir. Certes, le père Plantat ne reconnut pas le palot, mais M. Lecoq, qui a l'œil plus exercé, le reconnut bien, lui, et même, il parut assez mécontent. « Mauvais !» grommela-t-il, lorsque l'ouvrier tapissier le salua. « Pitoyable ! Crois-tu donc, mon garçon, qu'il suffise pour se déguiser de changer la couleur de sa barbe ? Regarde-toi un peu dans cette glace, et dis-moi si l'expression de ta figure n'est pas absolument celle de tantôt. Ton œil et ton sourire ne sont-ils pas les mêmes ? Puis, vois, ta casquette est bien trop de côté. » Ce n'est pas naturel, et ta main ne s'enfonce pas assez crânement dans ta poche. Je tâcherai, monsieur, de faire mieux une autre fois, répondit modestement le palot. Oh, je l'espère bien, mais enfin, pour ce soir, le concierge de tantôt ne te reconnaîtra pas, et c'est tout ce qu'il faut. Et maintenant, que dois-je faire ? Voici tes instructions, dit le coq. Répondant au palot, et surtout ne va pas te tromper. D'abord, tu vas retenir une voiture ayant un bon cheval. Tu iras ensuite chez le marchand de vin, chercher un de nos hommes qui t'accompagnera jusqu'à l'hôtel de M. Wilson. Arrivé là, tu sonneras, tu entreras seul, et tu remettras au concierge la lettre que voici en disant qu'elle est de la plus haute importance et très pressée. Ta commission faite, tu te mettras ainsi que ton agent en embuscade devant l'hôtel. Si M. Wilson sort, et il sortira, ou je ne suis plus le coq, ton compagnon viendra immédiatement me prévenir. Quant à toi, tu t'attacheras à M. Wilson et tu ne le perdras pas de vue. Il prendra certainement une voiture, tu le suivras avec la tienne, en ayant la précaution de monter sur le siège à côté du cocher. et ouvre l'œil. C'est un gaillard fort capable de s'esquiver pendant la course par une des portières et de te laisser courir après une voiture vide. Bon, c'est bien, du moment que je suis prévenu. Silence donc quand je parle. Il ira probablement chez le tapissier de la rue des Saints-Pères. Cependant, je puis me tromper. Il se peut qu'il se fasse conduire à une gare de chemin de fer quelconque et qu'il prenne le premier train venu. En ce cas, tu monteras dans le même wagon que lui et tu le suivras partout où il ira, en ayant soin toutefois de m'expédier une dépêche dès que tu le pourras. Oui, monsieur, très bien, seulement si je dois prendre un train... Quoi, tu n'as pas d'argent ? Précisément. Alors, monsieur Lecoq sortit son portefeuille, prends ce billet de 500 francs. C'est plus qu'il n'en faut pour entreprendre le tour du monde. Tout est-il bien entendu ? Pardon, si monsieur Wilson revient purement et simplement à son hôtel, que devrais-je faire ? Laisse-moi donc finir. S'il rentre, tu reviendras avec lui et au moment où sa voiture s'arrêtera devant l'hôtel, tu donneras deux vigoureux coups de sifflet. Puis tu m'attendras dans la rue en ayant soin de garder ta voiture que tu prêteras à monsieur s'il en a besoin. Compris, fit le palot qui s'éloigna en courant. Restés seuls, le père Planta et l'agent de la sûreté commencèrent à arpenter lentement la galerie. Ils étaient graves, silencieux comme on l'est toujours au moment décisif d'une partie. On ne parle pas autour des tables de jeu. Tout à coup, M. Lecoq tressaillit. Il venait d'apercevoir son agent à l'extrémité de la galerie. Si vive était son impatience qu'il courut à lui. « Eh bien !»« Monsieur, le gibier est lancé !» Et Palot le fil. À pied ou en voiture ? En voiture. Il suffit. Alors rejoins tes camarades et dis-leur de se tenir prêts. Tout marchait au gré des désirs de M. Lecoq. Il se retournait triomphant vers le vieux juge de paix lorsqu'il fut frappé de l'altération de ses traits. Vous trouveriez-vous indisposé, monsieur ? Demanda-t-il tout inquiet. « Non, mais j'ai 55 ans, monsieur Lecoq, et à cet âge, il est des émotions qui tuent. Tenez, au moment de voir mes vœux se réaliser, je tremble, je sens qu'une déception serait ma mort. J'ai peur, oui, j'ai peur. Oh, que ne puis-je me dispenser de vous suivre ?»« Ah, mais votre présence est indispensable, monsieur. Sans vous, sans votre aide, je ne puis rien. » « À quoi vous serais-je bon ? À sauver Mademoiselle Laurence, monsieur !» Ce nom ainsi prononcé rendit au juge de paix d'Orcival une partie de son énergie. « S'il en est ainsi, » fit-il. Déjà, il s'avançait résolument vers la rue, monsieur Lecoq le retint. « Pas encore, » disait-il, « pas encore. Le gain de la bataille, monsieur, dépend de la précision de nos mouvements. Une seule faute et toutes mes combinaisons échouent misérablement, et je suis forcé d'arrêter et de livrer à la justice le prévenu. Il nous faut 10 minutes d'entretien avec Mademoiselle Laurence, mais non beaucoup plus, et il est absolument nécessaire que cet entretien soit brusquement interrompu par le retour de Trémorel. Établissons donc nos calculs. Il faut à ce gredin 30 minutes pour aller rue des Saints-Pères, où il ne trouvera personne. Autant pour revenir, mettons 15 minutes perdues, en tout 1h15. C'est encore 40 minutes de patience. Le père Planta ne répondit pas, mais Lecoq comprit qu'il lui serait impossible de rester si longtemps debout, après les fatigues de la journée, ému comme il l'était et n'ayant rien pris depuis la veille. Il l'entraîna donc dans un café voisin et le força de tremper un biscuit dans un verre de vin. Puis, sentant bien que toute conversation serait importune à cet homme si malheureux, il prit un journal du soir et bientôt parut absorbé par les nouvelles d'Allemagne. La tête renversée sur le dossier de la banquette de velours, l'œil perdu dans le vide, le vieux juge de paix repassait dans son esprit les événements de ces 4 années qui venaient de s'écouler. Il lui semblait que c'était hier que Laurence, encore enfant, venait courir sur la pelouse de son jardin et ravager ses rosiers. Comme elle était jolie déjà, et quelle divine expression avaient ses grands yeux. Puis du soir au matin, pour ainsi dire, comme une rose que fait épanouir une nuit de juin, la jolie enfant était devenue la radieuse jeune fille. Mais timide et réservée avec tous, elle ne l'était pas avec lui. N'avait-il pas été son vieil ami, le confident de ses petits chagrins et de ses innocentes espérances? Combien elle était candide et pure! Quelle divine ignorance du mal! 9 heures sonnèrent. Monsieur Lecoq déposa son journal sur la table. « Partons, » dit-il. Le père Planta le suivait d'un pas plus assuré, et bientôt, accompagnés des hommes de M. Job, ils arrivèrent devant l'hôtel occupé par M. Wilson. « Vous autres, » dit M. Lecoq à ses agents, « vous attendrez pour entrer que j'appelle. Je vais laisser la porte entrouverte. » Au premier coup de sonnette, la porte s'ouvrit et le père Planta et l'agent de la sûreté s'engagèrent sous la voûte. Le concierge était sur le seuil de sa loge. « Monsieur Wilson, » demanda M. Lecoq, « il est absent. »« Je parlerai à madame alors. Elle est absente aussi. » »« Très bien, alors seulement comme il faut absolument que je parle à madame Wilson, je vais monter. » Le concierge s'apprêtait à une vive résistance, mais M. Lecoq ayant appelé ses hommes, il comprit à qui il avait affaire et, plein de prudence, il se tut. L'agent de la sûreté posta alors 6 de ses hommes dans la cour, dans une position telle qu'on put aisément les apercevoir des fenêtres du premier étage, et ordonna aux autres d'aller se placer sur le trottoir en face, leur recommandant d'observer très ostensiblement la maison. Ces mesures prises, il revint au concierge. « Toi, mon brave, commanda-t-il, attention. Quand ton maître qui est sorti va rentrer, garde-toi bien de lui dire que la maison est cernée et que nous sommes là-haut. Un seul mot te compromettrait terriblement. » Si menaçant était l'air et le ton de M. Lecoq, que le portier frémit, il se mit au fond des plus humides cachots. « Je suis aveugle, répondit-il, je suis muet. Combien y a-t-il de domestiques dans l'hôtel ?»« 3, mais ils sont sortis. » L'agent de la sûreté prit alors le bras du père Planta et le tenant fortement. « Vous le voyez, monsieur, dit-il, tout est pour nous. Venez. » Et au nom de mademoiselle Laurence, du courage. Toutes les prévisions de M. Lecoq se réalisaient. Laurence n'était pas morte. Sa lettre à sa famille n'était qu'une odieuse tromperie. C'était bien elle qui, sous le nom de Madame Wilson, habitait l'hôtel où venaient de pénétrer le père Planta et l'agent de la sûreté. Comment la belle et noble jeune fille, tant aimée du juge d'Orcival, en était-elle venue à ces extrémités affreuses? C'est que la logique de la vie, hélas, enchaîne fatalement les unes aux autres toutes nos déterminations. C'est que, souvent, une action indifférente, peu répréhensible en elle-même, peut être le point de départ d'un crime. Chacune de nos résolutions nouvelles dépend de celles qui l'ont précédée et en est la conséquence mathématique, en quelque sorte, comme le total d'une addition est le produit des chiffres posés. Malheur à celui qui, pris au bord de l'abîme d'un premier vertige, ne fuit pas au plus vite sans détourner la tête, s'en est fait de lui. Bientôt, cédant à une attraction irrésistible, il s'approche bravant le péril, son pied glisse, il est perdu. Vainement revenu au sentiment de la réalité, il fera pour se retenir d'incroyables efforts. Il n'y parviendra pas. À peine réussira-t-il à retarder sa chute définitive. Quoi qu'il fasse et qu'il tente, il roulera plus bas, toujours plus bas, jusqu'à ce qu'il arrive au fond, tout au fond du gouffre. Ainsi, Trémorel n'avait rien de l'implacable caractère des assassins. Il n'était que faible et lâche. Et cependant, il avait commis d'abominables crimes. Tous ses forfaits remontaient au premier sentiment d'envie qu'il avait ressenti contre Sauvrésy et qu'il n'avait pas pris la peine de vaincre. Dieu a dit à la mer, « Tu n'iras pas plus loin. » Mais il n'est pas d'homme qui, brisant la digue de ses passions, sache où elles s'arrêteront. Ainsi, le jour où Laurence, la pauvre enfant éprise de Trémorel, s'était laissée serrer la main en se cachant de sa mère, elle était une fille perdue. Le serment de main l'avait amenée à feindre le suicide pour fuir avec son amant. Il pouvait aussi bien la conduire à l'infanticide. Resté seul après le départ d'Hector attiré au faubourg Saint-Germain par la lettre de M. Lecoq, la malheureuse Laurence s'efforçait de remonter le cours des événements depuis une année. Combien ils avaient été imprévus et rapides! Il lui semblait qu'emportée dans un tourbillon, elle n'avait pas une seconde pour se recueillir, pour ressaisir son libre arbitre. Elle se demandait si elle n'était pas le jouet d'un cauchemar hideux et si elle n'allait pas se réveiller tout à l'heure à Orcival dans sa blanche chambre de jeune fille. Était-ce bien elle qui était là dans une maison inconnue, morte pour tous, laissant une mémoire flétrie, réduite à vivre sous un nom d'emprunt, sans famille désormais, sans amis, sans personne au monde sur qui appuyer sa faiblesse, à la merci d'un homme fugitif comme elle, libre de briser demain les liens fragiles de la fantaisie qui le retenait aujourd'hui. Était-ce bien elle, enfin, qui sentait un enfant tressaillir dans son sein, qui allait être mère et qui se trouvait réduite à cet excès de misère, de rougir de cette maternité qui est l'orgueil des jeunes femmes? 1000 souvenirs de son existence passée revenaient à sa mémoire, et cruels comme des remords avivaient son désespoir. Son cœur se fondait en songeant à ses amitiés d'autrefois, à sa mère, à sa sœur, aux fiertés de son innocence, aux joies pures du foyer paternel. À demi renversée sur un divan du cabinet d'Hector, elle pleurait à chaudes larmes, librement. Elle pleurait, sa vie brisée à 20 ans, sa jeunesse perdue, ses radieuses espérances évanouies, l'estime du monde, sa propre estime à elle-même, qu'elle ne retrouverait jamais. Tout à coup, la porte du cabinet s'ouvrit avec bruit. Laurence crut que c'était Hector qui rentrait, et brusquement elle se leva, passant son mouchoir sur ses yeux pour essayer de cacher ses larmes. Sur le seuil, un homme qu'elle ne connaissait pas, M. Lecoq, s'inclinait respectueusement. Elle eut peur. Tant de fois depuis 2 jours, Trémorel lui avait répété « On nous poursuit, cachons-nous bien !» qu'alors même qu'il lui semblait qu'elle n'avait plus rien à redouter, elle tremblait sans savoir pourquoi. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'un ton hautain. « Qui vous a permis de pénétrer jusqu'ici? Que voulez-vous » Monsieur Lecoq est l'un de ces hommes qui ne laissent rien au hasard de l'inspiration, qui prévoient tout, qui règlent les actions de la vie comme les scènes du théâtre. Il s'attendait à cette colère légitime, à ces questions, et il avait ménagé son effet. Pour toute réponse, il fit un pas de côté, démasquant ainsi le père Plantin placé derrière lui. En reconnaissant son vieil ami, Laurent s'éprouva un si rude choc qu'en dépit de sa vaillance, elle faillit se trouver mal. « Vous ? » balbutia-t-elle. « Vous ? » Le vieux juge de paix était, s'il se peut, plus ému qu'elle encore. Était-ce vraiment sa Laurence qui était là devant lui ? Le chagrin avait si bien fait son œuvre qu'elle semblait vieille. Ayant cessé de se serrer à risquer d'en mourir, sa grossesse était très apparente. « Mais pourquoi m'avoir cherché ? » reprit-elle. « Pourquoi ajouter une douleur à ma vie ? Oh, je l'avais bien dit à Hector qu'on ajouterait parfois à la lettre qu'il me dictait. Il est de ces malheurs contre lesquels la mort seule est un refuge. » Le père Plantin allait répondre, mais monsieur Lecoq s'était promis de mener l'entretien. « Ce n'est pas vous, madame, que nous cherchons, dit-il, mais bien monsieur de Trémorel. « Hector, et pourquoi, s'il vous plaît ?» Au moment de frapper cette malheureuse enfant, coupable seulement d'avoir cru au serment d'un misérable, M. Lecoq hésita. Et cependant, il est de ceux qui pensent que la vérité brutale est moins affreuse que des ménagements cruels. « Monsieur de Trémorel, répondit-il, a commis un grand crime. « Lui, vous mentez, monsieur !» L'agent de la sûreté secoua tristement la tête. « Je dis vrai, malheureusement, insista-t-il. Monsieur de Trémorel a assassiné sa femme dans la nuit de mercredi à jeudi. Je suis agent de police et j'ai ordre de l'arrêter. » Il supposait que cette terrible accusation allait foudroyer Laurence et la renverser. Il se trompait. Elle était foudroyée, mais elle restait debout. Le crime lui faisait horreur, mais il ne lui paraissait pas absolument invraisemblable, ayant compris la haine que Berthe inspirait à Hector. « Eh bien, soit !» s'écria-t-elle, sublime d'énergie et de désespoir, soit. Je suis sa complice, arrêtez-moi. » Ce cri, qui paraissait arraché à la passion la plus folle, attira le père Plantin, mais ne surprit pas monsieur Lecoq. « Non, madame, non, reprit-il, vous n'êtes pas la complice de cet homme. D'ailleurs, le meurtre de sa femme est le moindre de ses forfaits. Savez-vous pourquoi il ne vous a pas épousé ? C'est que de concert avec Madame Berthe, qui était sa maîtresse, il a empoisonné Sauvresy, son sauveur, son meilleur ami. Nous en avons la preuve. » C'était plus que n'en pouvait supporter l'infortunée Laurence. Elle chancela et tomba mourante sur le canapé. Mais elle ne doutait pas. Cette terrible révélation déchirait le voile qui jusqu'alors avait pour elle recouvert le passé. Oui, l'empoisonnement de Sauvresy lui expliquait toute la conduite d'Hector, sa position, ses craintes, ses promesses, ses mensonges, sa haine, son abandon, son mariage, sa fuite, enfin tout. Pourtant, elle essayait encore, non de le défendre, mais de prendre la moitié de ses crimes. « Oh, je le savais, balbutia-t-elle, d'une voix brisée par les sanglots, Je savais tout. Le vieux juge de paix était au désespoir. « Comme vous l'aimez, pauvre enfant !» s'écria-t-il. « Comme vous l'aimez !» Cette douloureuse exclamation rendit à Laurence toute son énergie. Elle fit un effort et se redressa l'œil brillant d'indignation. « Moi, l'aimer ! » s'écria-t-elle. « Moi ! Ah, tenez ! À vous, mon seul ami, je puis expliquer ma conduite, car vous êtes digne de me comprendre. Oui, je l'ai aimé, c'est vrai, aimé jusqu'à l'oubli du devoir, jusqu'à l'abandon de moi-même. Mais un jour, il s'est montré à moi tel qu'il est, je l'ai jugé, et mon amour n'a pas résisté au mépris. J'ignorais l'assassinat terrible de Sauvresy, mais Hector m'avait avoué que son honneur et sa vie étaient entre les mains de Berthe et qu'elle l'aimait. Alors je l'ai laissé libre de m'abandonner, de se marier, sacrifiant ainsi plus que ma vie à ce que je croyais son bonheur, et cependant je n'avais plus d'illusion. En fuyant avec lui, je me sacrifiais encore, et quand j'ai vu que cacher ma honte devenait impossible, j'ai voulu mourir. Si je vis, si j'ai écrit à ma malheureuse mère une lettre infâme, si en un mot j'ai cédé aux prières d'Hector, c'est qu'il me priait au nom de mon enfant, de notre enfant. » Monsieur Lecoq, qui sentait que le temps pressait, essaya une observation, mais Laurence ne l'écouta pas. « Mais qu'importe, poursuivait-elle, je l'ai aimé, je l'ai suivi, je suis à lui. » La constance, voilà la seule excuse d'une faute comme la mienne. Je ferai mon devoir. Je ne saurais être innocente quand mon amant a commis un crime. Je veux la moitié du châtiment. » Elle parlait avec une animation si extraordinaire que l'agent de la sûreté désespéré de la calmer lorsque deux coups de sifflet donnés dans la rue arrivèrent jusqu'à lui. Trémorel rentrait, il n'y avait plus à hésiter. Il saisit presque brutalement le bras de Laurence. « Tout cela, madame, fit-il d'un ton dur, vous le direz au juge, mes ordres ne concernent que le sieur Trémorel. Voici au surplus le mandat d'amener. » Il sortit à ces mots le mandat décerné par M. Domini et le posa sur la table. À force de volonté, Laurence était redevenu presque calme. « Vous m'accorderez bien, » demanda-t-elle, « 5 minutes d'entretien avec Monsieur le comte de Trémorel. » Monsieur le comte eut un tressaillement de joie. Cette demande, il l'avait prévue, il l'attendait. « 5 minutes, soit, » répondit-il. « Mais renoncez, madame, à l'espoir de faire évader le prévenu. La maison est cernée. Regardez dans la cour et dans la rue, vous verrez mes hommes en embuscade. » « D'ailleurs, je vais rester là, dans la pièce voisine. » On entendit le pas du comte dans l'escalier. « Voici Hector !» fit Laurence. « Vite, bien vite, cachez-vous !» Et comme il disparaissait, elle ajouta, mais non si bas que l'agent de la sûreté ne l'entendit. « Soyez tranquille, nous ne nous évaderons pas. » Elle laissa retomber la portière, il était temps. Hector entrait. Il était plus pâle que la mort, ses yeux avaient une affreuse expression d'égarement. « Nous sommes perdus, dit-il, on nous poursuit. Vois, cette lettre que je viens de recevoir, ce n'est pas l'homme dont elle porte la signature qu'il a écrite. Il me l'a dit. Allez, viens, partons, quittons cet hôtel. » Laurence l'écrasa d'un regard plein de haine et de mépris et dit « Il est trop tard. » Sa contenance, sa voix, était si extraordinaire que Trémorel, malgré son trouble, en fut frappé et demanda « Qu'y a-t-il ? » ? « On sait tout. On sait que vous avez assassiné votre femme. »« Mais c'est faux !» Elle haussa les épaules. « Eh bien, oui, c'est vrai. Oui, c'est que je t'aimais tant. » « Vraiment, alors est-ce aussi par amour pour moi que vous avez empoisonné Sauvresy ? Il comprit qu'en effet il était découvert, qu'on l'avait attiré dans un piège, qu'on était venu en son absence informer Laurence de tout. Il n'essaya pas de nier. « Qu'y faire ? » s'écria-t-il. « Que faire ?» Laurence l'attira vers elle et d'une voix frémissante, elle murmura « Sauvez le nom de Trémorel ? Il y a des armes ici. » Il recula comme s'il eût vu la mort elle-même. « Non, fit-il, non, je peux encore fuir, me cacher. Je pars seul, tu viendras me rejoindre. » « Je vous l'ai déjà dit, il est trop tard. La police a cerné la maison. Et, vous le savez, c'est le bagne ou l'échafaud. On peut se sauver par la cour. Elle est gardée, voyez. » Il courut à la fenêtre, aperçut les hommes de Monsieur Lecoq et revint hideux de terreur à moitié fou. « On peut toujours essayer, disait-il, en se déguisant. « Insensé, il y a là, tenez, un agent de police, c'est lui qui a laissé sur le coin de cette table ce mandat d'arrêt. » Il vit qu'il était perdu, sans ressources. « Faut-il donc mourir ? » murmura-t-il. « Oui, il faut, mais auparavant écrivez une déclaration de vos crimes. On peut soupçonner des innocents. » Machinalement, il s'assit, prit la plume que lui tendait Laurence et écrivit « Près de paraître devant Dieu, je déclare que seul et sans complice, j'ai empoisonné Sauvresy et tué la comtesse de Trémorel, ma femme. » Quand il eut signé et daté, Laurence ouvrit un des tiroirs du bureau où se trouvaient des pistolets. Hector en saisit un, elle s'empara de l'autre. Mais comme à l'hôtel autrefois, comme dans la chambre de Sauvresy mourant, Trémorel, au moment d'appuyer l'arme sur son front, sentit le cœur lui manquer. Il était livide, ses dents claquaient, il tremblait au point qu'il faillit laisser échapper le pistolet. « Laurence, balbutia-t-il, ma bien-aimée, que vas-tu devenir ?»« Moi, mais j'ai juré partout et toujours, je vous suivrai, comprenez-vous ?»« Oh, c'est horrible, dit-il encore, ce n'est pas moi qui ai empoisonné Sauvresy, c'est elle, il y a des preuves, peut-être qu'avec un bon avocat. » Monsieur Lecoq ne perdait ni un mot ni un geste de cette scène poignante. Volontairement ou involontairement, qui sait ? Il poussa la porte qui fit du bruit. Laurence crut que cette porte s'ouvrait, que l'agent revenait et qu'Hector allait tomber vivant aux mains de la police. « Misérable lâche ! » s'écria-t-elle en l'ajustant. « Tire ou sinon ! » Il hésitait. Le bruit se renouvela, elle fit feu. Trémorel tomba mort. D'un geste rapide, Laurence ramassa l'autre pistolet et déjà elle le tournait contre elle quand Monsieur Lecoq bondit jusqu'à elle et lui arracha l'arme des mains. « Malheureuse ! » s'écria-t-il. « Que voulez-vous ? Mourir ? Est-ce que je puis vivre maintenant ? Oui ! « Vous pouvez vivre, répondit l'agent de la sûreté. Et je dirais plus, vous devez vivre. Mais je suis une fille perdue. Non, vous êtes une pauvre enfant, séduite par un misérable. Vous êtes bien coupable, dites-vous, soit vivez pour expier. Les grandes douleurs comme la vôtre ont leur mission en ce monde. » Mission de dévouement et de charité. Vivez, et le bien que vous ferez vous rattachera à la vie. Vous avez cédé aux trompeuses promesses d'un scélérat. Souvenez-vous, quand vous serez riche, qu'il y a de pauvres filles honnêtes, forcées de se vendre pour un morceau de pain. Allez à ces malheureuses, arrachez-les à la débauche, et leur honneur sera le vôtre. » Monsieur Lecoq observait Laurence tout en parlant, et il s'aperçut qu'il la touchait. Pourtant, ses yeux restaient secs et avaient un éclat inquiétant. « D'ailleurs, reprit-il, votre vie n'est pas à vous. Vous êtes mère. » « répondit-elle, c'est pour mon enfant qu'il faut que je meure maintenant, si je ne veux pas mourir de honte, quand il me demandera qui est son père. » « Vous lui répondrez, madame, en lui montrant un honnête homme, en lui montrant un vieil ami, M. Planta, qui est prêt à lui donner son nom. » Le vieux juge de paix était mourant, mais pourtant il eut encore la force de dire « Laurence, ma fille bien-aimée, je vous en conjure, acceptez. » Ces simples mots, prononcés avec une douceur infinie, attendrirent enfin la malheureuse jeune fille et la décidèrent. Elle fondit en larmes. Elle était sauvée. Monsieur Lecoq, aussitôt, s'empressa de jeter sur les épaules de Laurence un châle qu'il avait aperçu sur un meuble, et passant le bras de la jeune fille sous celui du père Planta, « Partez, dit-il au vieux juge de paix, emmenez-la. Mes hommes ont ordre de vous laisser passer, et Palot vous scellera sa voiture. » Mais où aller ? À Orcival. Monsieur Courtois est informé par une lettre de moi que sa fille est vivante et il l'attend. Allez, allez ! Resté seul, ayant entendu le roulement de la voiture qui emmenait Laurence et le père Planta, l'agent de la sûreté vint se placer devant le cadavre de Trémotel. Voilà, se dit-il, un misérable que j'ai tué au lieu de l'arrêter et de le livrer à la justice. En avais-je le droit ? Non. Mais ma conscience ne me reproche rien. C'est donc que j'ai bien agi. » Et courant à l'escalier, il appela ses hommes.